RCF. La pierre d'un tombeau roulé, un homme mort depuis 4 jours qui se relève, une vie qui reprend dans un élan de pure nouveauté. L'évangile de ce jour porte en lui les prémices de la résurrection du Christ. Mais ici, ce n'est pas Jésus qui sort du tombeau, mais Lazare, l'un de ses amis. Ce drame de la mort va lui déchirer les entrailles et Jean, l'évangéliste qui raconte la scène, précisera qu'à la vue du tombeau et de tous ceux qui pleurent, Jésus aussi fondra en larmes. La mort et le relèvement de Lazare font partie des épisodes les plus poignants des évangiles. Et pour le commenter, je reçois cette semaine Sébastien Anthony. Bonjour.
Bonjour Béatrice.
Vous êtes prêtre, religieux assomptionniste. Nous commençons par écouter la parole chez Jean, chapitre 11, versets 1 à 45.
Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là. Il t'appelle. » Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre, alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
Sébastien Ottoni, les principaux personnages, Marthe, Marie, Jésus, Lazare. On sait peu de choses sur la vie affective de Jésus, mais on sait que ce sont des amis proches de Jésus.
Voilà, le texte nous le dit. D'ailleurs, ils étaient effectivement, ils se connaissaient. C'était sans doute, vous savez, Béthanie, la ville, le petit village plutôt, d'où était issue cette petite famille, est à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est peut-être justement un lieu de pause pour Jésus. On l'a évoqué dans la tradition de l'Église, de dire voilà, c'était un lieu effectivement de recueillement, de pause, où il avait plaisir sans doute à s'arrêter et à partager la vie familiale de cette petite famille, quand même pas si ordinaire que ça soit deux sœurs et un frère qui vivent ensemble, ils sont pas mariés.
C'était rare à l'époque.
Oui, c'est quand même assez bizarre, c'est pas une famille comme on l'entend, il y a pas de parents, il y a pas de, enfin, on sait pas trop, ils doivent avoir à peu près la trentaine, comme Jésus aussi. C'est quand même une famille qui pose question.
Ce récit, il a lieu peu de temps avant la passion de Jésus.
Peu de temps avant la passion de Jésus, effectivement, dans un contexte d'inquiétude et de mort, déjà qui approche, que l'on sent. Dans l'évangile de Jean, on parle des Juifs, des opposants. Alors les Juifs, c'est pas le peuple juif israélite, voilà,
c'est les
opposants. C'est les autorités et les opposants. Et au fur et à mesure que l'on lit l'évangile de Jean, on se rend compte que ce terme de Juif fait référence à une personne, en fait, comme si c'était une véritable personne, qui au début, on les verra murmurer contre Jésus, jusqu'à hurler « crucifie-le » au moment de la passion. Et là, on est juste au bord où on sent déjà qu'il y a beaucoup de haine. Ce personnage, le Juif, encore une fois, je souligne et je le redis, ça n'a rien à voir avec le confessant israélite, c'est vraiment l'opposant dans le texte de Jean, est au paroxysme. Là, on sent vraiment que la haine va se déployer et Jésus a peur.
Jean nous dit que Marthe et Marie font prévenir Jésus, qui n'est pas sur place, pour leur dire que leur frère est malade. Celui que tu aimes est malade. Où est-ce qu'il se trouve Jésus? Il est plus loin.
Il est du côté de la Transjordanie. Il est pas très loin, si vous voulez, on va reprendre les termes d'aujourd'hui, pas très loin de la mer morte, si vous voulez. Et effectivement, il est en recul. C'est une partie désertique parce qu'encore une fois, on est dans un contexte où il y a du danger et du risque. Et arriver à Jérusalem, eh bien, ça serait s'exposer à ce danger. Et Jésus, finalement, peut-être, en tout cas, en a peur, du moins, s'en protège en étant hors de cette ville.
Sébastien Ottoni, alors qu'il y a urgence puisque Lazare est malade, on peut se demander pourquoi Jésus tarde à partir le retrouver. Jean précise, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait, avant de partir.
Il est prévenu deux jours avant, et on se dit, alors, effectivement, on peut lier cette hésitation, finalement, à bondir et à rejoindre celui qu'en plus on nous précise que Jésus l'aimait, et donc il y a de l'affection dans cette histoire-là, et c'est incompréhensible, effectivement, de se dire, mais enfin, il en a soigné, il en a guéri d'autres, très rapidement, et là, il prend son temps. Alors, première lecture, de se dire, effectivement, il y a du danger, et Jésus y réfléchit à deux fois, si vous voulez.
Ça, c'est la première lecture.
C'est la première lecture. Et la deuxième lecture, c'est celle que va manifester l'évangile, évidemment, que Jésus est profondément libre et que cette maladie dont souffre Lazare, il va avoir une parole assez étonnante, Jésus. Il va dire cette maladie ne conduit pas à la mort, alors que si, il est mort. Donc du coup, il va y avoir quelque chose là qui va se révéler de l'action de Jésus, d'une manière de se positionner par rapport à une urgence, à un cri de l'humanité, à une mort qui peut s'annoncer, et une profonde liberté de Jésus qui va faire quelque chose que le texte va nous révéler.
Oui, il dit, et qui est de l'ordre de la gloire, parce qu'il dit, cette maladie ne mène pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu.
Exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Alors, la gloire de Dieu, c'est la manifestation complète de Dieu. C'est Dieu qui... La gloire dans la Bible, c'est toute la présence, tout le poids de la présence de Dieu. C'est pas la gloriole façon Star System, c'est pas du tout ça. C'est de dire, là, dans cet épisode-là, dans ce qui va se passer là, Dieu va se manifester complètement, va être manifesté presque comme une épiphanie. Une épiphanie, c'est une manifestation, va être reconnu ou va se laisser reconnaître dans son identité profonde.
RCF, enfin une bonne nouvelle. Sébastien Ottoni, nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche, donc chez Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà, donc il est mort. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Deux positions différentes,
deux manières d'envisager finalement le deuil et deux réactions aussi différentes dans leur prise de parole. On verra Marthe qui osera, malgré l'absurdité, malgré les reproches aussi qu'elle lancera à Jésus, mais enfin si tu étais venu, mon frère serait pas mort, elle aura une parole de foi. Et Marie, restée à la maison, restera dans sa peine. Elle n'aura pas de parole de foi, elle restera dans ses larmes. Mais la foi de Marthe, les larmes de Marie vont faire agir Jésus quand même sur leur frère Lazare.
Est-ce qu'on peut rapprocher l'attitude de Marie ici chez Jean de celle qu'elle a assise au pied de Jésus dans un autre évangile ?
Effectivement, on associe souvent Marie finalement à quelqu'un qui énerve en plus sa sœur Marthe, qui est beaucoup plus volontaire,
active,
qui sert à table et qui reproche même à Jésus de dire mais enfin regarde là, en gros, en substance elle dit mais regarde cette feignante qui ne fait rien, et Jésus qui va lui dire mais enfin non, elle a une autre manière de faire, et cette autre manière de faire qui est d'écouter ma parole a aussi une importance. Et là, la réaction par rapport à ce deuil, où Marthe emportée, enfin sans doute une maîtresse femme, cette Marthe, hein, va avoir une parole de foi, et Marie, non. Mais cette non-foi ou ces larmes, peut-être c'est une autre manière de traduire la foi que d'avoir des larmes, finalement, face à une réaction, enfin une situation, pardon, de la mort d'un frère, qui n'appelle pas forcément tout de suite
une réaction
positive, un élan de foi, parce qu'il y a un deuil aussi à
vivre. C'est le temps du deuil.
Il y a un deuil à vivre, mais où Dieu n'est pas absent, où le Seigneur n'est pas absent, et ce temps de deuil, ce temps de silence de Marie donnera l'occasion à Jésus, effectivement, de faire signe et de manifester qui il est.
Écoutons Marthe qui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est fort, hein, cette phrase, parce que au fond, beaucoup de personnes là, qui nous écoutent pourraient dire cette phrase au sujet d'un homme, d'une femme qu'ils connaissent.
Absolument, parce que même pour des intimes, encore une fois, on nous précise au début du texte que ce sont des intimes de Jésus, donc qui doivent être familiers de sa parole, qui doivent être travaillés par cette parole, par une foi aussi en lui, par une confiance en lui, donc à la résurrection, à la vie, enfin tout ce que Jésus enseigne et annonce. Effectivement, ce temps du deuil doit être vécu. Et quelque part, Jean, l'évangéliste, en l'écrivant, prend même le temps de l'écrire, alors que il aurait pu passer outre, si vous voulez,
en allant directement
au but, et voilà, il y a un guéri de plus, et non, non, non. On va s'arrêter là-dessus, justement, pour montrer finalement l'immense humanité de Jésus, l'immense proximité que Jésus, le Seigneur, veut avoir dans les moments les plus pénibles.
Et lui-même passera par là, puisqu'il va pleurer.
Il va pleurer, et non seulement il va pleurer, mais le texte nous dit qu'il sera retourné aux entrailles, ça va beaucoup plus loin. C'est un bouleversement très très profond. C'est le verset le plus court de l'évangile de Jean, qui dit justement « Dieu est bouleversé ». Un petit peu comme un focus sur un petit verset qui dit finalement « Dieu est bouleversé » quand il a devant lui, d'une certaine manière, la souffrance, la peine, ce qui ne lui ressemble pas puisqu'il n'est que vie. Alors ça paraît peut-être étrange de le dire comme ça, mais quand la vie rencontre la mort, il y a quelque chose qui est bouleversant, qui retourne complètement, qui n'est pas possible. Et la vie ne pourra apporter que de la vie à ce qui était mort.
Il y a la foi de Marthe, vous en avez déjà parlé, chevillée au corps. Il est mort, mon frère, mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur cette foi de Marthe ?
C'est une réponse, la foi, celle de Marthe comme la nôtre. C'est une réponse au Seigneur qui se propose. Et de garder cette foi, de la manifester, encore une fois, dans un moment où elle joue pas, elle fait pas semblant, elle souffre profondément, cette femme, hein, de voir son frère mort. Et peut-être même de ressentir une incompréhension face à celui qui aurait dû être là, ce Jésus, encore une fois, en qui elle fonde tant d'espoir et de confiance, dont elle sait qu'il a guéri tant d'autres malades, et qui n'est même pas là pour un intime, pour un proche. ça rejoint peut-être aussi l'incompréhension effectivement, de nos auditeurs, mais de n'importe quel croyant qui se dit « mais pourquoi moi ? Pourquoi moi encore ?» C'est l'énigme du mal, c'est l'énigme du mal qui traverse finalement toute la Bible. Dans les psaumes, on l'entend, mais enfin, le juste est compté pour rien, alors que celui qui n'est pas bon
a de longs jours devant lui,
comment cela se fait-il ? Pourquoi ? Et on comprend finalement que la relation au Seigneur, c'est pas du donnant-donnant ou de l'affectif ou en gros, ben, plus on est proche, plus tu me dois quelque chose, plus j'ai la foi en toi, plus tu dois m'exaucer. Marthe nous apprend que cette foi, finalement, qu'elle professe, qu'elle dit au-delà de sa douleur, est emplie de gratuité. Et il y a quelque chose là qui nous renseigne et nous enseigne peut-être à épurer notre propre foi, à la rendre gratuite, à trouver de la gratuité, non pas du donnant-donnant, mais quelque chose qui se reçoit et qui se reconnaît dans un Seigneur qu'on ne comprend pas toujours, mais parce que c'est lui, on l'accueille et on le reconnaît comme tel.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
Sébastien Anthony, nous regardons cette page d'évangile où Jésus se rend à Béthanie où Lazare, son ami, vient de mourir. À Marthe qui demande à Jésus d'intervenir, il va dire « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Le verbe « croire », il revient là comme un leitmotiv. Il est prépondérant chez Jean, en plus, ce verbe.
C'est le fil d'or de son évangile. C'est un appel à la foi, effectivement.
Et alors, c'est quoi, croire, à ce moment-là ?
Croire à ce moment-là, c'est croire en ces paroles-là qui sont absurdes, entre guillemets, qui sont absurdes à ce moment-là. La foi, c'est un saut dans l'absurde. Crois-tu cela alors que tout autour de nous, tout autour de toi, semble dire que non, c'est faux, que ça se passe pas comme ça, que ça se passera pas comme ça. La foi, elle commence quand on n'a plus de raison de croire, d'une certaine manière. Et Marthe, là, n'a plus de raison de croire, parce qu'encore une fois, il n'est pas guéri, son frère, il est mort, elle l'attendait, elle comptait sur Jésus. Et pourtant, elle dit si. Si, je crois.
Elle dit oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors ça, c'est une relecture après théologique, hein, mais quand même, elle signifie là
une reconnaissance
de la vie.
Une reconnaissance de la vie qui se donne et qui s'offre, cette gloire de Dieu qui sera un triomphe de la vie sur la mort. On ne sait pas bien comment. Et je tremble en le disant, parce que c'est pas non plus une formule pour s'en sortir facilement par le haut et dire « bah oui, le bon Dieu prend soin de tout le monde ». Je le crois profondément, mais je sais pas comment. Et parfois son temps n'est pas le mien, son rythme n'est pas le mien. Et je pourrais avoir même toutes les raisons de me dire « tout ça, c'est du vent et c'est faux ». Parce que, à l'évidence, les événements de ma vie me disent le contraire. Et pourtant si. Et il y a un sursaut de foi là qui se manifeste, mais on est seul. On est très seul dans un acte de foi, comme Marthe est seule dans un acte de foi, qu'elle marque, qu'elle pose, qu'elle ose, mais elle seule peut le faire. Et personne ne peut la forcer, personne ne peut, ni les événements, ni même le Seigneur, ni même Dieu peut la forcer à avoir la foi. Crois-tu cela ? Il y a une profonde liberté qui se joue ici, cette liberté que le Seigneur finalement accorde, lance. C'est inhérent à ce qu'il est de laisser cette possibilité de croire ou de ne pas croire en lui. Et là, en l'occurrence, surtout quand tous les événements pourraient faire croire qu'il n'est pas la vie. Et Marthe, au contraire, va le reconnaître.
Alors, il y a Marthe et Marie. Marie va rejoindre Marthe. Et puis, il y a les commentaires autour. Jean nous dit que certaines personnes y vont de leurs paroles. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?
Alors, ils ont raison. Dit comme ça et de but en blanc, ils ont raison. Et en même temps, Jean, et là on est dans ce qu'on appelle l'ironie joannique aussi, parce que l'évangéliste Jean aime beaucoup jouer un petit peu comme ça, en pointant le reproche finalement que font les Juifs à Jésus en le lançant comme ça. Ils ont la mémoire courte parce que, et on le lisait la semaine dernière dans l'évangile de dimanche dernier avec la guérison de l'aveugle de naissance, ils reprochaient à Jésus de l'avoir guéri en l'occurrence. Tu n'aurais pas dû le faire. Alors ils vont invoquer toutes sortes d'histoires en disant il a péché, etc. Bon, tout ce qu'on voudra. Ils sont de mauvaise foi. En fait, c'est ça. C'est l'hypocrisie et la mauvaise foi de ceux qui, de toute façon, voudront ne pas reconnaître l'identité et la gloire que le Seigneur veut manifester de toute sa présence et de son identité profonde. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire mais il aurait dû. Enfin, voilà. C'est la mauvaise foi effectivement qui se manifeste ici.
Arrivons à la phase finale, j'allais dire, de ce texte. L'évangéliste nous dit que Jésus arrive au tombeau, qui est une grotte fermée par une pierre. Il demande à ce qu'on enlève la pierre. Comment ne pas penser d'ailleurs au propre tombeau de Jésus? Et puis ce détail tout à fait concret. « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là », dit Marthe à Jésus.
Il n'y a pas de doute, il est mort. Mais effectivement, vous avez soulevé le lien qui est à faire. On est juste au bord de la passion, si vous voulez. Donc on est à quelques encablures, si j'ose dire, de la résurrection aussi. Et cette question de la pierre roulée, c'est la question que portent les femmes en allant au tombeau le matin de Pâques. Elles n'attendent pas du tout la résurrection quand elles vont au tombeau. Pour elles, leur souci, c'est de savoir qui va leur rouler cette pierre, en l'occurrence, pour pouvoir embaumer le corps.
Oui, soigner le corps.
Le cadavre. Elles pensaient trouver un cadavre et certainement pas trouver un vivant. Et là, la question nous est aussi posée, d'une certaine manière. La pierre est à nouveau roulée. Évidemment, il y a un lien avec la résurrection. Est-ce que l'on va croire aussi à notre propre résurrection? Vous savez, dans le credo, on parle tous les dimanches, quand on professe notre foi en église, on parle de la résurrection de la chair. C'est pas la résurrection des muscles hein, et du corps en tant que tel matériel, c'est le tout de la vie, c'est le tout de notre existence. Et là, eh bien, nous est aussi posé cette question-là, est-ce que nous croyons aussi que notre résurrection aura lieu? Alors, la résurrection de Lazare n'est pas une résurrection, la résurrection finale. Lazare est, comme disent les enfants, il est remort une autre fois, hein, et sinon il se baladerait dans nos rues. C'est pas la résurrection finale, mais malgré tout, il y a quelque chose là de cette question qui nous est lancée. Crois-tu aussi, toi, à ta propre résurrection un jour?
Une fois que la pierre est enlevée, il y a cette prière de Jésus, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé ». Jésus commence d'emblée par remercier son Père, alors que, bon, Lazare n'est pas encore sorti. Comment l'entendre?
Là, on a un exemple finalement de cette foi de Jésus en son Père finalement, de cette confiance où effectivement, avant même que la résurrection, que le miracle ait eu lieu, tu m'as exaucé. J'en suis certain.
Donc ça parle de la foi même de Jésus, c'est la confiance totale.
La confiance totale, tu m'as exaucé, tu m'exauceras. Toute sa mission, toute son annonce, tout l'évangile, tout ce qu'il est ancré et basé sur cette certitude absolue que la vie aura le dernier mot. Alors là, en l'occurrence, pour cet exemple de miracle avec Lazare, mais plus largement avec le triomphe de la résurrection sur la mort, que la vie aura le dernier mot.
Lazare vient dehors, ça cette phrase elle est très forte, hein. Le mort sorti, les mains et les pieds liés par les bandelettes, et puis Jésus dit à ceux qui sont là, déliez-le, laissez-le aller.
Alors il pourrait,
c'est très fort ça.
C'est très très fort et en même temps on pourrait y voir une petite humour aussi de la part de Jésus en disant bah évidemment on voit bien, on visualise immédiatement l'image et mais enfin débrouillez-vous pour que cet homme soit vraiment libre. Il y a le rôle aussi de ceux qui sont autour de l'église de qui doit libérer, qui doit tout faire pour libérer un homme de toutes ses morts. C'est la mission de l'église que de laisser aller libre les personnes qui s'approchent d'elle ou que par son Seigneur en tout cas par les paroles de l'évangile, les personnes se sentent même ressuscitées de l'intérieur. Alors tous les miracles, d'ailleurs on n'appelle pas ça des miracles dans l'évangile de Jean, on appelle ça des signes. C'est-à-dire ils n'existent pas pour eux-mêmes. Il ne s'agirait pas de les regarder simplement pour ce qu'ils sont et de s'extasier en disant waouh, c'était formidable ce qui s'est passé, Jésus est
quel beau final,
quel beau final
avant la passion.
Voilà, c'est extraordinaire. Non, il faut que ça soit un signe pour nous. Il faut toujours que ça nous renvoie, que ça nous soit renvoyé pour notre propre chemin de foi.
Sébastien Anthony, en quoi le texte que nous venons de lire nous rejoint aujourd'hui?
Eh bien, typiquement, c'est de se dire d'abord que dans toute épreuve de deuil, Dieu est présent pour pleurer avec nous, pour être présent avec nous. Qu'il n'y a pas à avoir honte de nos larmes et de ce temps qu'il faut pour reprendre pied parfois, parce que c'est douloureux. D'oser, et là encore une fois, chacun est seul par rapport à ce saut de la foi, mais d'oser une parole de foi, un acte de foi, dans le désarroi que l'on peut éprouver quand un être proche nous manque, de dire « Je crois en toi, Seigneur ». Et de voir que Jésus, non seulement entre dans ma peine, la partage en pleurant lui-même, et apportera, je le crois, dans la foi, la vie à ce qui pour l'instant ne ressemble qu'à la mort pour moi. Alors une vie en me relevant de ma tristesse, de ma peine.
C'est déjà ça, une sorte de relèvement.
C'est un relèvement.
De ne pas demeurer dans un deuil perpétuel.
Exactement. Et d'ailleurs le terme de relever, lever, qui est un autre terme pour parler de résurrection, hein, traverse aussi ce texte. C'est une première résurrection aussi à vivre dans la perspective finale d'une résurrection totale et d'une vie auprès de Dieu, avec la certitude que même si les éléments se déchaînent autour de moi, même si la mort semble triompher, c'est la vie qui aura le dernier mot.
Merci à vous, Sébastien Anthony. L'évangile que nous avons commenté est à retrouver chez Jean, au chapitre 11, versets 1 à 45. Et merci à Pierre-Henri Paget à la technique.